إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. Donc on poursuit inshallah ta'ala l'explication de منهج السالكين de l'imam السعدي رحمه الله avec le شرح de الشيخ سليمان القصيري حفظه الله. Et donc on va entrer aujourd'hui dans le chapitre concernant ce qu'on appelle trois choses que sont Al-Ila, Al-Zihar et Al-Li'an. Mais avant, juste revenir sur un point de la semaine dernière concernant le hadith évoqué par l'auteur dans lequel il dit le prophète alayhi salatu wassalam trois choses, lorsqu'elles sont dites sérieusement, sont sérieuses, et lorsqu'elles sont dites avec plaisanterie, sont aussi sérieuses. Elles sont aussi effectives et valides qu'elles soient dites sérieusement ou de manière pour plaisanter. Vous voyez ? Ces trois choses sont le mariage, le divorce et la reprise après le divorce. Naam. Et on avait donc donné l'exemple par rapport au mariage, mathalan, lorsque le père, le tuteur de la fille, dit « je te marie ma fille ». D'accord ? Et que l'homme à qui il parle dit « je suis d'accord ». Et qu'il y a, deux témoins. Il y a deux témoins qui ont donc attesté et assister à cet échange, qui sont dans le contrat de mariage, ce qu'on appelle al-ijab ou al-qaboul. On avait dit que lorsque la petite ou lorsque la fille était petite, son père donc peut du coup la marier dans ce cas-là. D'accord ? Peut la marier dans ce cas. Et na'am. S'il voit bien sûr qu'il y a une maslaha, un intérêt certain, concret pour la fille de la marier alors qu'elle est encore petite. D'accord ? Et si elle est kabira, donc si elle est grande, le mariage sera effectif à condition qu'elle soit consentante, qu'elle soit d'accord et consentante par rapport à la parole de son tuteur qui est donc de la marier avec cet homme. Anam. Ça y est. Donc même s'il a dit en plaisantant, le mariage il est effectif. Et donc la question était donc à quel âge du coup l'enfant devient grand ou la fille devient grande, Yanni. C'est-à-dire qu'à quel âge on aura besoin de son consentement, Naam. Eh bien c'est à la puberté, d'accord. Donc avant la puberté, à condition que le père voit qu'il y a un intérêt concret et réel pour la fille de la mariée pour la marier. Et après la puberté, on aura besoin obligatoirement du consentement verbal venant de la femme qui a déjà été mariée, tayeb, ou non verbal, c'est-à-dire le silence, le fait que la femme garde le silence, mathalan, par pudeur, pour la femme qui n'a jamais été mariée, c'est-à-dire la fille vierge. Wallahu ta'ala a'lam. On passe maintenant donc au chapitre de Al-Ila, Al-Bihar et Al-Li'an. فقال المؤلف رحمه الله فالإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر. طيب فقوله أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا وهي أن يقسم الزوج باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته ألا يطع زوجته بصفة مستمرة بلا تحديد. Donc on commence par définir ce qu'est d'abord al-ila. Donc al-ila, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le fait que l'époux jure sur le fait de ne plus avoir de rapports conjugaux avec son épouse, plus jamais. D'accord? Le fait que l'époux jure de ne plus avoir, de ne plus jamais avoir de rapports conjugaux avec son épouse ou de ne plus avoir de rapports conjugaux avec elle durant une période supérieure à 4 mois. Une période supérieure à 4 mois. Ça, c'est l'ila. L'ila, je répète, le fait que l'époux jure de ne plus jamais avoir de rapport avec son épouse ou de ne plus avoir de rapport avec elle durant une période supérieure à 4 mois. Non. Donc, de ne plus jamais avoir de rapport avec elle, l'époux va jurer sur un des noms d'Allah tabarak wa ta'ala, ou va jurer sur un des attributs, parmi les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala, de ne plus avoir de rapport avec son épouse de manière perpétuelle, constante, sans limite. D'accord? أو مدة تزيد على أربعة أشهر هي أن يقسم الزوج أن لا يطع زوجته ويحدد المدة بأكثر بأكثر أو بأكثر من أربعة أشهر كسنة أو أقل أو أكثر. وانا دي il jure de ne plus avoir de rapport avec elle durant une période supérieure à combien? 4 mois. Comme le fait qu'il jure, donc, on a dit qu'il jure sur Allah, ou un de ses noms, sachant qu'Allah c'est bien sûr un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sur un de ses attributs, de ne plus avoir de rapport avec son épouse, en précisant une période spécifique, supérieure à 4 mois, tel que une année par exemple, tel que une année, ou plus, ou moins qu'une année. Est-ce que c'est clair? طيب. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له أربعة أشهر فإن وطئ كفر كفارة يمين وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Puis, lorsque, puis lorsque l'épouse, après que son mari donc ait fait ce serment, réclame son droit qui est donc d'avoir des rapports charnel avec son époux. On ordonnera, on donnera l'ordre à ce moment-là à son époux d'avoir des rapports avec elle. Vous voyez ? Et on lui laissera donc cette période de 4 mois. Cette période de 4 mois maximum pour qu'il ait des rapports avec elle. Si il retourne à elle et qu'il a des rapports, eh bien, il devra faire une expiation qui est celle de Al-Yamin, du serment. Il devra faire l'expiation du serment. Taïb, qui est connu, Inch'Allah Ta'ala, hein, qui est soit d'affranchir un esclave, soit de nourrir 10 pauvres, soit de vêtir 10 pauvres. Taïb. Et s'il ne peut pas, il devra jeûner 3 jours. Naam. Et si malgré cette limite des 4 mois, il persiste à refuser d'avoir des rapports conjugaux avec son épouse, eh bien, on devra le contraindre et le forcer à divorcer. Vous voyez ? On devra le contraindre à divorcer selon la vertu de la parole d'Allah. Tabarak wa ta'ala, dans la sourate Al-Baqarah, dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « À ceux qui font serment de s'abstenir de leurs épouses, un délai de 4 mois est accordé. Et s'ils se dédisent, Allah est pardonneur et très clément. » Et s'ils se résolvent à la répudiation, Allah entend et c'est tout. ثم قال المؤلف رحمه الله والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. طيب أن يقول لزوجة أنت علي كظهر أمي ونحوه. نعم. فممن تحرم عليه بالتأبيد كأخته وبنته وعمته وخالته ونحو ذلك. Maintenant on passe à la deuxième chose qui est الظهار. الظهار. Qui est que l'époux dit à son épouse, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Passer à Zihar. Il y a autre que cela parmi les comparaisons qu'il fait par rapport à un membre de sa famille avec lequel l'homme est interdit au mariage de manière perpétuelle. Tel que la sœur, la fille, la tante, paternelle et maternelle et autres que cela. D'accord ? Donc, ce n'est pas seulement la formule avec la mère, ça peut être une formule avec la sœur, la fille, etc. S'il dit, par exemple, « Tu es pour moi comme le dos de ma fille », eh bien, ceci rentre aussi dans « Avihar », parmi donc les formules qui interdiront de manière explicite, voyez, l'homme d'avoir des rapports avec sa femme. « Fahuwa munkarun wazur » ولا تحرم زوجة بذلك أي لا تحرم الزوجة بالظهار وهذا عكس ما كان في الجاهلية فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقا ولكن الله جعلها يمينا مكفرة وكفارتها مغلظة. Donc الظهار c'est bien sûr c'est un acte ignoble. طيب et un mensonge de surcroît. Et la femme ne devient pas interdite par rapport à Zihar. Taïb. Contrairement à ce qu'ils appliquaient et pratiquaient fil jahiliya, à l'époque pré-islamique. À l'époque pré-islamique, ils considéraient Zihar comme étant un divorce. Lorsque l'homme disait cela à son épouse, en fait, ça voulait dire qu'il l'a divorcée. Mais Allah tabarak wa ta'ala, donc, peu après le début d'Islam, et yani, à travers la révélation de, du début de la sourate Al-Mujadala, hein, par rapport à l'anecdote de Khawla, hein, Khawla bint, comment, bint Tha'laba, avec son époux qui s'appelait Aous ibn As-Samit. Taïeb. Et donc à ce moment-là, Allah tabarak wa ta'ala a descendu ces versets de la sourate Al-Mujadala et a fait que celui qui fait un zihar, yani, devra, yani, lorsqu'il voudra retourner à sa femme et avoir des rapports avec elle, faire yani, une expiation. Il en a fait un serment, en fait, qui doit être expié. Et cette expiation, c'est une expiation qui est murallaba, yani qui est sévère. Vous voyez ? C'est une expiation sévère, contrairement à l'expiation du serment simple. D'accord ? L'expiation de dhihar rentre dans l'expiation qui est murallaba, qui est sévère. Et on verra c'est quoi, Inch'Allah. طيب لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمر الله به حيث بينت الآية أن المظاهر لا يجامع زوجته حتى يقوم بالعتق أو الصيام mais malgré ça, donc malgré le fait que la femme ne lui est pas interdite, elle ne lui sera plus permise tant que il ne pourra plus la toucher, avoir des rapports avec elle, tant qu'il n'aura pas fait ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné dans la parole d'Allah, dans la sourate Al-Mujadala. Dans la parole d'Allah, dans la sourate Al-Mujadala. D'ailleurs, dans lequel donc, le verset nous indique clairement que Al-Mudahir, celui qui a fait Zihar à sa femme, ne pourra plus avoir de rapport avec elle tant que il n'aura pas affranchi un esclave ou jeûné. D'accord ? Donc on va lire le verset de la sourate Al-Mujadala. Le verset numéro 3. Le verset numéro 3. Non. Dans le sens du verset, Allah est dit « Ceux qui s'interdisent de jouir de leurs épouses, en usant de cette formule de dhihar, puis reviennent sur leurs propos, doivent affranchir un esclave avant de pouvoir jouir de nouveau de leurs épouses. Voilà ce qui est destiné à vous empêcher d'y retomber. Allah sait parfaitement vos agissements. Que celui qui n'en trouve pas le moyen jeûne 2 mois consécutifs avant de pouvoir jouir à nouveau de son épouse. Et s'il ne peut pas, qu'il nourrisse combien ? 60 pauvres. Ceci afin que vous croyez en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Telles sont les limites établies par Allah et ceux qui les renient subiront un châtiment douloureux. Taïb. Naam. ثم قال فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا فهذه هي كفارة الظهار وهي على الترتيب عتق رقبة فإذا لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصيام فعليه إطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد ويجب أن يكون الرقيق المعتق سليما من كل عيب ولا يقدر معه على العمل فلا يعتق عماء أو مشلولا أو مريضا ونحوها ونحوه. Puis dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, donc il devra faire cette expiation qu'on appelle mughalladha, sévère. Donc il devra affranchir un esclave croyant et qui ne possède pas un défaut qui l'empêcherait de travailler pour son maître. Voyez, s'il n'en trouve pas, il devra jeûner combien? 2 mois. 2 mois consécutifs. Shahrayni mutatabi'in. 2 mois consécutifs. Et s'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Non. Il devra nourrir combien de pauvres? 60 pauvres. Non. Donc ceci, c'est l'expiation de Dhihar. On voit qu'elle est différente de celle du simple serment qui n'a pas été honoré. Taïeb? Aynam? Donc, dans l'ordre qui doit être respecté ici, l'ordre, l'affranchissement d'un esclave, s'il ne trouve pas d'esclave à affranchir ou qu'il n'a pas les moyens d'en affranchir un, il devra jeûner 2 mois consécutifs. Et s'il n'a pas les capacités de jeûner 2 mois consécutifs, il devra nourrir 60 pauvres. Et pour chaque pauvre, il devra donner la moitié d'un sa'a. La moitié d'un sa'a. D'accord? De la nourriture habituelle de l'endroit où se trouvent ces pauvres. Il lui est obligatoire, par rapport à l'esclave qu'il affranchit, que cet esclave soit exempt de tout défaut qui pourrait l'empêcher de travailler. Par exemple, un esclave aveugle ou paralysé, infirme ou malade d'une maladie qui l'empêche de travailler. D'ailleurs, et autre que cela. ثم قال وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه فقد يكون الظهار مؤقتا بزمن معين فإذا قال مثلا أنت علي كظهر أمي حتى يخرج رمضان فإذا وطئها في رمضان لزمته الكفارة وذلك لأنه فعل أو عاد لما حرمه بقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا وإن لم يطأها فيه لم يلزمه شيء لأنه لم يفعل ما ظهر عليه. Puis il dit l'auteur ici, rahimahullah, que ce vihar ait été prononcé de manière absolue, en général, sans précision au niveau du temps, ou au contraire, prononcé avec une précision au niveau du temps, une précision temporelle. Yani, tel que Ramadan, mathalan, et autre que cela. Donc il se peut que ce vihar soit quelque chose de limité temporairement, limité dans le temps. D'accord? Temporaire. Lorsque l'époux dit par exemple à son épouse, tu es pour moi comme le dos de ma mère, jusqu'à ce que Ramadan se termine. Hein? Tu es pour moi comme le dos de ma mère, jusqu'à ce que Ramadan se termine. Cela veut dire que s'il a des rapports avec elle durant le mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Il sera obligé de verser ou de faire la kafara, l'expiation. D'accord? Pourquoi? Parce que il sera revenu sur ses propos, sur ce qu'il avait décidé, taïeb, et cela en vertu de la parole d'Allah. Dans le sens du verset, puis ils reviennent sur leurs propos, doivent affranchir un esclave, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Mais s'il n'a pas de rapport avec elle durant le mois de Ramadan, c'est-à-dire jusqu'à ce que le mois de Ramadan se termine, eh bien il aura le droit d'avoir des rapports après le mois de Ramadan, et cela sans faire d'expiation. Sans faire d'expiation. Pourquoi? Parce que il avait précisé dans son vihar en disant: tu es pour moi comme le dos de ma mère jusqu'à ce que le mois de Ramadan se termine. Est-ce que c'est clair? Taïeb. ثم قال: وأما تحريم المملوكة، تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. Non. Puis dit l'auteur ici, rahimahullah, quant au fait que l'homme s'interdise son esclave femelle, son esclave la femme, d'accord? Ou une nourriture, ou un vêtement, par exemple, et autre que cela. Il devra faire en cela une expiation simple du serment. Une expiation du serment, il y a une simple. Cela par rapport à la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, de la sourate Al-Ma'ida, dans le sens du verset, Allah dit: ô vous qui croyez, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah a rendues licites pour vous. D'accord? Jusqu'à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala ait mentionné donc l'expiation du serment pour ces choses-là. Donc le fait de s'interdire une esclave femme que la personne possède, ou une nourriture, ou un vêtement, comme le fait qu'ils disent, مثلاً, أمتي علي حرام, أو يقول أكل الخبز علي حرام, أو هذا الثوب علي حرام, ونحو ذلك, فإنه لا يكون حراما عليه, ولكن عليه كفارة يمين, لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام 3 أيام وكذلك قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني كفارة أيمانكم وهذه الآيات نزلت لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل فأمره الله بكفارة يمين كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة radiyallahu anha. Donc, le fait que la personne dise par exemple: mon esclave m'est interdite, ou qu'il dise: je m'interdis à moi-même le fait de manger du pain, enfin, ou de boire yani, telle boisson, ou de mettre tel vêtement, d'accord, et autre que cela, eh bien ces choses-là ne seront pas interdites, mais il devra faire une expiation. Une expiation de serment. D'accord? Et cela par rapport à la parole d'Allah, donc de la sourate Al-Ma'ida, dans le sens du verset, encore une fois: ô vous qui croyez, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah a rendues licites pour vous. Et ne transgressez pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et bon, et craignez Allah en qui vous croyez. Allah ne vous tient pas rigueur
pour vos serments prononcés à la légère, mais pour ceux que vous avez eu l'intention ferme d'exécuter. En cas de parjure, l'expiation consiste à nourrir 10 pauvres, de ce dont vous nourrissez habituellement vos familles, ou à les vêtir, ou à affranchir un esclave. Quiconque ne peut s'acquitter de ceci, qu'il jeûne 3 jours. Qu'il jeûne 3 jours. Vous voyez ? Et aussi la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la surat At-Tahrim. Hein? Le début de la surat At-Tahrim. Vous voyez ? Dans le sens du verset, Allah a dit « Ô prophète, pourquoi recherchant le contentement de tes épouses, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a permis ?» Allah est pardonneur et très clément. Vous voyez ? Allah a institué pour vous un moyen de vous libérer de vos serments. Ceci car Allah vous protège et vous guide et il est l'omniscient, le sage. Na'am. Donc la parole ici, قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ إِمَانِكُمْ يعني dans le sens, Allah Jalla wa Ala vous a institué pour vous un moyen, une expiation pour vous libérer de vos serments. Donc ces versets-là ont été descendus lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'était interdit à lui-même de consommer du miel. Donc Allah tabarak wa ta'ala lui a ordonné, l'ordre d'expier, hein, ce serment, comme cela a été rapporté dans Sahih al-Bukhari ainsi que Muslim dans le hadith d'Aïcha radiallahu anha. Donc on va s'arrêter là inshallah pour aujourd'hui. On verra lundi prochain ce qu'est al-li'an inshallah wal 'ilmu 'inda Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama taslima. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.